Tudjotamani, voici nos informations en français.
Dans les titres de cette matinale, les membres du gouvernement de transition sont connus depuis hier. Ils sont au total 25 ministres, dont 4 femmes, avec des portefeuilles stratégiques comme la défense, la sécurité et l'administration du territoire occupé par des militaires. Soumaïla Cissé serait toujours aux mains des groupes djihadistes, alors que des sources sécuritaires maliennes annonçaient hier à l'AFP l'échange de près de 200 prisonniers contre l'ancien chef de file de l'opposition et la française Sophie Petronné. Mais aucune confirmation de ses libérations à ce jour. Jeune et passionné, Namori Tchemoko Keita est dans l'enseignement depuis plus de 10 ans. Il est actuellement en poste à Kangaba, à 85 km de Bamako, dans le cadre de la journée mondiale de l'enseignant. Studio Tamani est allé à sa rencontre. Le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Une semaine après la nomination du Premier ministre, le gouvernement de transition a été formé hier. Il est composé de 25 ministres, pour la plupart méconnus des Maliens. Ce nouvel attelage, constitué d'officiers, de technocrates et de membres de groupes armés signataires de l'accord et de la société civile, est chargé de conduire la transition pour les 18 prochains mois. Il faut noter que ce gouvernement de transition n'a pas respecté la loi 052 qui accorde 30% des postes électifs et nominatifs aux femmes. Intal Agbilal.
Dans ce gouvernement, 4 officiers. Le colonel Sadio Camara occupe les portefeuilles stratégiques de la défense, alors que le colonel Modibo Koni hérite du ministère de la sécurité et de la protection civile. Le colonel-major Ismaël Wagué à la réconciliation nationale. Les 3 officiers étaient respectivement 2e et 3e vice-président et porte-parole du CNSP, la junte militaire. C'est un autre officier qui s'occupe de l'administration du territoire. Il s'agit du colonel Abdoulaye Mega. Mohamed Sida Diko est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, tandis que le diplomate Zini Moulay gère les affaires étrangères et la coopération internationale. Al-Fousseini Sanou est aux commandes du ministère de l'Économie et des Finances. Le département chargé de la refondation de l'État et des relations avec les institutions revient à Mohamed Koulibaly. Des membres des groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation et certains du mouvement M5-RFP ont été nommés dans ce gouvernement. Ainsi, Moussa Agataher et Mohamed Ould Mahmoud de la CEMA ont été respectivement nommés ministres de la Jeunesse et des Sports et ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Harouna Ashtouré et Alhamdou Galien de la Plateforme sont devenus ministres du Travail et de la Fonction Publique et ministres des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine. Mohamed Salia Touré, membre de la CEMAS, s'occupe du ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
Certains observateurs se disent déçus de la composition de ce gouvernement. Ils regrettent notamment le non-respect de la loi 052 et l'occupation de la plupart des postes régaliens par les militaires. C'est le cas de Ibrahima Maïga, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité. Il était l'un des invités du Grand Dialogue d'hier.
Il y a 4 femmes sur 25. On peut d'ores et déjà dire que la loi 052 n'a pas été respectée, malheureusement. Je pense qu'on a des femmes de qualité, de grandes compétences dans ce pays, qui auraient pu faire valoir justement leurs compétences. Un des éléments, en fait, en regardant ce gouvernement qui m'interpelle, c'est quand même, encore une fois, la présence des militaires à des postes stratégiques et régaliens. J'aurais préféré qu'on contrebalance un petit peu, parce que je considère que la sécurité, en fait, elle ne relève pas que du domaine exclusif des militaires. Donc j'aurais vu un équilibre à ce niveau-là, qui aurait permis d'atténuer un petit peu le prisme militaire sur les questions de défense et de sécurité, par exemple. Moi, j'attends encore de voir la feuille de route révisée du gouvernement avec un chronogramme clair et précis, des engagements clairs et précis, des actions prioritaires précises.
À l'instant, c'était Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité. Vous avez la possibilité de réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Plus de 130 djihadistes auraient été libérés ce week-end par les autorités maliennes en échange de la libération de Soumaïla Cissé et de l'otage française Sophie Petronné. Les proches de Soumaïla Cissé ne confirment pas cette nouvelle. Ils affirment cependant avoir des preuves de vie de l'honorable et gardent espoir pour sa libération. Le point avec Emirana Kiloumaïga.
Des responsables de la médiation sous couvert de l'anonymat auraient confirmé cette information à l'AFP. Selon eux, l'échange des prisonniers a eu lieu dans deux secteurs différents. Certains ont été relâchés dans la zone de Nyono, région de Ségou, et d'autres vers Tessalit, région de Kidal, où ils ont été acheminés par avion. Un responsable du service de sécurité malienne a confirmé à l'AFP ces informations. Une opération qui pourrait aboutir à la libération de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, et de Sophie Petronet, une Française enlevée à Gao depuis décembre 2016, indiquent plusieurs sources. En plus de ces prisonniers, une somme importante aurait été versée aux ravisseurs. Contacté par nos soins, le porte-parole du chef de file de l'opposition n'a pas confirmé ces allégations. Toutefois, il précise qu'il détient des preuves de vie de Soumaïla Cissé. L'enlèvement de l'honorable Soumaïla Cissé n'a jamais été revendiqué, mais des soupçons pèsent de plus en plus sur le groupe djihadiste d'Amadou Koufa, allié au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. En juin dernier, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta avait déclaré, je cite, « Des contacts ont été établis avec les ravisseurs et il sera bientôt libéré. » Depuis ce jour, plus rien n'a filtré de la mise en liberté du chef de file de l'opposition malienne.
Explication signée Imirana Kilou Maïga, 8h05 à Bamako, natif du cercle de Kangaba dans la région de Koulikoro, Namouri, Tchemoko, Keïta, est l'un des rares jeunes qui ont intégré le corps enseignant par conviction. C'est en 2008 qu'il fait son entrée dans l'enseignement. À l'occasion de la journée de l'enseignant, notre reporter Lundi Moussa Diallo l'a rencontré. Voici son portrait.
Maître du premier cycle, Namouri Tchemoko Keïta enseigne en classe de 5e année à l'école Kangaba, premier cycle C. C'est à son grain où il s'est réuni avec d'autres collègues que nous l'avons rencontré ce dimanche. Fier et passionné par sa profession, le jeune instituteur estime qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être enseignant.
C'est l'amour de ce métier qui m'a même poussé à devenir enseignant. Moi, j'ai fait le premier cycle à Kangaba. Bon, j'ai été attiré, vraiment attiré par le comportement de mes professeurs, donc il m'a beaucoup poussé à devenir un enseignant.
L'enseignant de 35 ans dit avoir rencontré des difficultés depuis qu'il est dans la profession. Toutefois, il s'est dit prêt à servir dans n'importe quelle localité du Mali. Preuve de son amour pour ce métier.
Le jour où on va m'affecter quelque part,
par exemple à Kidal,
il n'y aura pas de problème. Si les gens vivent là-bas quand même, il n'y a pas de problème. Moi, je peux aller n'importe où. Je suis prêt à servir n'importe où aussi. Les difficultés qui nous dérangent ici, bon, souvent il y a des problèmes avec la hiérarchie. Ensuite, les forces formation et puis le système qu'on enseigne, qu'on appelle curriculum, sira et trio comme ça.
Marié et père de 3 enfants, Namouri Tchemoko Keïta souhaite aussi longtemps que possible vivre de ce métier. C'est pourquoi il demande l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Depuis Kangaba, Lundi Moussa Diallo pour Studio Tamani.
Nous restons à Kangaba, nous nous rendons à présent sur le site d'orpaillage de Balandougou. Sur ce site, il n'y a pas de force de sécurité, c'est un groupe d'individus appelé Tomboloma, qui assure la stabilité ainsi que la quiétude des habitants de la localité. Ce groupe jouit d'une crédibilité auprès de certains occupants du site. Aussi, il entretient de bonnes relations avec les forces de sécurité de Kangaba, dont relève la localité de Balandougou. Les détails avec notre envoyé spécial à Kangaba, Fatih Attara.
Sur les sites, il n'est pas rare de voir une bagarre entre des groupes d'hommes ou encore des femmes, comme c'est le cas ici. Les spectateurs se contentent de calmer les belligérants. Mais la question est toujours tranchée par les éléments de Tomboloma. Mambi Berthe est le chef du Tomboloma. Il nous explique comment le Tomboloma parvient à gérer les contentieux.
On travaille un peu avec nos lois, la loi coutumière et avec la loi moderne. Le rôle que nous jouons, ça c'est d'abord la sécurité. Les juristes, s'il y a un problème entre deux personnes ou bien s'il y a des vols là.
Certains orpailleurs se disent satisfaits des procédures employées par le Tomboloma pour éviter ou mettre fin à un litige. Il intervient à chaque fois qu'un violent combat est sur le point de s'éclater, renchérissent d'autres habitants d'ici.
Oui, entre nous, on se bagarre toujours. S'il n'était pas là, nous nous serions tués.
Rappelons aussi que sur d'autres sites, le tombolement est taxé des perturbateurs et des corrompus, à tort ou à raison. Tamani. De Kangaba, Fatia Tara pour Studio Tamani.
Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. À la date d'hier, lundi 5 octobre, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 5 nouveaux cas positifs, 3 patients guéris et 0 décès. Ainsi, la situation cumulée est de 3189 cas positifs, dont 2482 guéris et 131 décès. Place à présent à notre rubrique Actu Covid présentée par Khalifa Goïta.
C'est un plaisir de vous retrouver pour Actu Covid. Pour ce numéro, nous faisons un zoom sur le test PCR ou Covid-19. Il s'agit de l'examen qui permet de savoir si une personne est testée positive ou négative de la maladie à coronavirus. Ce prélèvement se fait par la bouche ou par le nez. L'objectif, selon les spécialistes, vise à atteindre le pharynx. Si pour ces derniers, la méthodologie est simple, des personnes qui ont effectué cette analyse trouvent que ce type de prélèvement est douloureux. Plus de détails avec Aïssata Diarra.
Selon des spécialistes, le prélèvement se fait à l'aide d'un coton-tige spécifique. Ce dispositif permet d'absorber les substances vivantes au niveau du pharynx, déclare le chef de département du laboratoire et recherche biomédicale à l'Institut national de la santé publique, Ibrahima Diallo.
On essaie de prendre au niveau de la gorge, mais le but c'est de pouvoir racler au niveau du pharynx. Pourquoi le pharynx? Parce que dans le cas des infections respiratoires, on trouve généralement que les personnes peuvent sécréter le virus à travers les voies respiratoires.
Le prélèvement fait mal, atteste des personnes qui ont effectué le test. C'est le cas de Lydie Diko.
Ils ont juste fait avec le nez.
Et vous avez eu peur?
Oui, puis ça fait vraiment mal.
Que ce soit par la voie orale ou nasale, ces examens donnent les mêmes résultats, précisent les spécialistes. Plus de 500 échantillons de tests sont utilisés chaque jour par les services de santé.
Une trentaine d'agents de santé des 17 CESCOM, du district sanitaire de Urosso et des 6 structures privées ont bouclé vendredi dernier une session de 3 jours sur la prévention de la maladie à coronavirus. Cette session a permis aux participants de maîtriser les modes de transmission et les facteurs favorisant la propagation de la maladie, de décrire les manifestations cliniques de la maladie et de savoir faire le suivi des personnes contacts. L'initiative est de la Direction régionale de la santé des Sikasso en partenariat avec l'UNICEF. Écoutons maintenant la question d'auditeur puis la réaction du professeur Akori Ak-Iknan, coordinateur de la cellule de lutte contre le coronavirus au Mali.
Comment expliquez-vous la non-explosion des cas positifs à la COVID-19 en Afrique?
L'Afrique se caractérise par un certain nombre d'éléments contextuels qui font que ce qu'on a prédit pour l'Afrique n'est pas arrivé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la jeunesse de notre population. Cette population peut faire la maladie sans présenter aucun signe. Deuxième élément, nous ne vivons pas en vase clos. Troisième élément pour le Mali, c'est notre capacité de proactivité à réactiver notre système de surveillance épidémiologique.
C'est tout pour ce numéro d'Acti Covid. Vous pouvez réécouter ce programme à tout moment sur notre page Facebook ou rendez-vous sur la plateforme Viamo en composant le 37 321, option 3 et 4.
Studio Tamani. Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, plus de 546 interpellations et 699 engins ont été saisis lors de plus de 825 patrouilles organisées par la police régionale de Ségou l'année dernière. Ces chiffres ont été communiqués hier lors de la célébration. Ces chiffres ont été communiqués dimanche plus tôt lors de la célébration des 60 ans de la police nationale. Le thème retenu pour cette 5e édition est pour une police de proximité, une commune, un commissariat de sécurité publique. Au cours de cette cérémonie, la population locale a été informée des missions, des statuts et des attributions de la police. Les cours ont repris hier dans les 30 centres de stratégie de scolarisation accélérée et passerelle de Urosso. Depuis 4 ans, ces centres donnent la chance aux enfants non scolarisés et déscolarisés de reprendre le chemin de l'école classique après une formation accélérée de 8 mois. Cette année, ils sont 813 nouveaux inscrits. La stratégie de scolarisation accélérée et passerelle est un projet mis en œuvre par l'ONG Gradicom en partenariat avec la Fondation Strom. La cérémonie de sortie de la 8e promotion de l'Institut de formation des maîtres IFM de Koutiala a eu lieu le week-end dernier. Elle porte le nom du chanteur Abdoulaye Diabaté et est composée de 146 finalistes de niveau bac et DEF, dont 41 filles. Le thème retenu pour cette sortie est « Comment lutter contre la violence dans l'espace scolaire ?» Nous sommes toujours sans nouvelles de notre correspondant à Douanza, Amadou Nialibouli. Il a été enlevé depuis le 26 septembre dernier alors qu'il quittait Bamako pour Mopti. Nous prions pour son retour parmi nous. Vous avez la possibilité de réécouter cette édition sur la plateforme Viamo en composant le 37 321. Et c'est ce qui met fin à ce journal présenté par Sekou Gadjigo à la mise en onde de Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi.